Državni izpitni center. Splošna matura 2020. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja francoščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v zato predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Un nom à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V, une brasserie, une institution. L'histoire du Fouquet's commence à la fin du 19e siècle. Il est le seul café autorisé sur les Champs-Élysées. C'est là que s'arrêtent les cochers qui transportent leurs clients aux courses à Longchamp. Dans les années 20, il devient une brasserie de luxe. Années 30, les bourgeois parisiens se pressent pour être vus aux terrasses. Il devient aussi le lieu de rendez-vous du monde du cinéma. Une histoire d'amour jamais démentie.
On peut dire à Tokyo, on peut dire à New York, on peut dire n'importe où. Rendez-vous dans deux jours au Fouquet's, à telle heure au Fouquet's, pas la peine de donner l'adresse, c'est exactement comme si on se donnait rendez-vous au pied de la Tour Eiffel.
Fin des années 70, il accueille les vainqueurs de la cérémonie des Césars, puis celle des Molières. Une tradition toujours d'actualité. Années 80, il est menacé d'être rasé pour faire place à une galerie marchande. Les acteurs se mobilisent.
Il ne faut pas qu'on touche au Fouquet's. Sinon...
Et c'est Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, qui le sauve en le classant monument historique. Le Fouquet's, incarnation de la culture, mais aussi du luxe, de l'argent. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. En 2007, Nicolas Sarkozy y célèbre sa victoire à la présidentielle avec une centaine de proches. Il reconnaîtra plus tard aux 20h de France 2 une erreur. Le Fouquet's, symbole du capitalisme, des inégalités. En 2012, ses chômeurs l'envahissent. Une institution chahutée, mais qui reste pour le monde du cinéma un lieu de rendez-vous où se signent des contrats. Et pour les touristes, une adresse qui fait rêver.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Un nom à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V. Une brasserie, une institution. L'histoire du Fouquet's commence à la fin du 19e siècle. Il est le seul café autorisé sur les Champs-Élysées. C'est là que s'arrêtent les cochers qui transportent leurs clients aux courses à Longchamp. Dans les années 20, il devient une brasserie de luxe. Années 30, les bourgeois parisiens se pressent pour être vus aux terrasses. Il devient aussi le lieu de rendez-vous du monde du cinéma. Une histoire d'amour jamais démentie.
On peut dire à Tokyo, on peut dire à New York, on peut dire n'importe où. Rendez-vous dans deux jours au Fouquet's, à telle heure au Fouquet's. Pas la peine de donner l'adresse. C'est exactement comme si on se donnait rendez-vous au pied de la Tour Eiffel.
Fin des années 70, il accueille les vainqueurs de la cérémonie des Césars, puis celle des Molières. Une tradition toujours d'actualité. Années 80, il est menacé d'être rasé pour faire place à une galerie marchande. Les acteurs se mobilisent.
Il ne faut pas qu'on touche au Fouquet's, sinon...
Et c'est Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, qui le sauve en le classant monument historique. Le Fouquet's, incarnation de la culture, mais aussi du luxe, de l'argent. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. En 2007, Nicolas Sarkozy y célèbre sa victoire à la présidentielle avec une centaine de proches. Il reconnaîtra plus tard aux 20h de France 2 une erreur. Le Fouquet's, symbole du capitalisme, des inégalités. En 2012, ses chômeurs l'envahissent. Une institution chahutée, mais qui reste pour le monde du cinéma un lieu de rendez-vous où se signent des contrats. Et pour les touristes, une adresse qui fait rêver.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Depuis 1983, année où il intègre Chanel, Karl Lagerfeld n'avait jamais raté aucune fin de défilé. Jusqu'à ce jour de janvier 2019, où la mariée rejoint seule Virginie Viard, la directrice du studio. Un communiqué officiel évoque brièvement son état de fatigue. L'homme vit au présent, déteste le passé. Et pourtant, en 2017, il présente à l'Elbphilharmonie une collection centrée autour des métiers d'art qu'il vénère particulièrement. C'est un hommage à sa ville natale, Hambourg. Il y serait né en 1935, 33 ou 38. Certaines dates désertent sa mémoire, par coquetterie sans doute. Son père a fait fortune dans le négoce. Sa mère, une femme qui menait tout le monde à la baguette, l'élève pratiquement seule. Elle sera sa muse, son inspiratrice. En 2014, sous la voûte du Grand Palais, le fils prodigue reconstitue une rue de Paris prise d'assaut par des manifestantes. Résultat, Karl Lagerfeld est un pragmatique. Il comprend très tôt que pour vendre des collections, il faut concevoir les histoires qui vont avec. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Le slogan date de 2008. Sur cette publicité pour la sécurité routière, il porte fièrement un gilet jaune. C'est la première fois qu'un couturier joue avec son personnage, casse les codes et les conventions. En 2004, il avait également été le premier à s'allier au géant suédois de la fast fashion H&M. Car il n'a de cesse de provoquer le désir, l'aspiration de tout un chacun à vénérer les griffes pour lesquelles il travaille. Sous des raisonnements parfois à la limite de l'absurde, Karl Lagerfeld n'en est pas moins un témoin exceptionnel de son temps. En 2013, en pleine polémique sur le mariage homosexuel, il prend ouvertement parti. Les défilés haute couture se terminant généralement avec une robe de mariée, il fera défiler deux mariés, deux femmes. L'année précédente, il avait évoqué une autre problématique actuelle, la transition écologique. Sous les pales d'un parc d'éoliennes, les mannequins arpentent un podium recouvert de panneaux solaires. Amateur de boissons gazeuses et une fois tous les jamais d'un bon verre de très grand cru, car il n'a jamais été porté ni sur les psychotropes ni sur les excès, il aime prendre son temps.
Être assis à une terrasse de bistrot parisien, regarder les filles passer en lisant un bon bouquin, c'est formidable.
Il adore le grandiose, le monumental, le théâtral. En 2017, au Grand Palais toujours, il installe une fusée de 30 mètres de haut. Karl Lagerfeld, styliste génial, dessinateur hors pair, habile photographe, est devenu, en plus de 60 décennies de mode, le couturier le plus connu et reconnu du monde.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Depuis 1983, année où il intègre Chanel, Karl Lagerfeld n'avait jamais raté aucune fin de défilé. Jusqu'à ce jour de janvier 2019, où la mariée rejoint seule Virginie Viard, la directrice du studio. Un communiqué officiel évoque brièvement son état de fatigue. L'homme vieux au présent déteste le passé. Et pourtant, en 2017, il présente à l'Elbphilharmonie une collection centrée autour des métiers d'art qu'il vénère particulièrement. C'est un hommage à sa ville natale, Hambourg. Il y serait né en 1935, 33 ou 38. Certaines dates désertent sa mémoire, par coquetterie sans doute. Son père a fait fortune dans le négoce. Sa mère, une femme qui menait tout le monde à la baguette, l'élève pratiquement seule. Elle sera sa muse, son inspiratrice. En 2014, sous la voûte du Grand Palais, le fils prodigue reconstitue une rue de Paris prise d'assaut par des manifestantes. Résultat, Karl Lagerfeld est un pragmatique. Il comprend très tôt que pour vendre des collections, il faut concevoir les histoires qui vont avec. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Le slogan date de 2008. Sur cette publicité pour la sécurité routière, il porte fièrement un gilet jaune. C'est la première fois qu'un couturier joue avec son personnage, casse les codes et les conventions. En 2004, il avait également été le premier à s'allier au géant suédois de la fast fashion H&M. Car il n'a de cesse de provoquer le désir, l'aspiration de tout un chacun à vénérer les griffes pour lesquelles il travaille. Sous des raisonnements parfois à la limite de l'absurde, Karl Lagerfeld n'en est pas moins un témoin exceptionnel de son temps. En 2013, en pleine polémique sur le mariage homosexuel, il prend ouvertement parti. Les défilés haute couture se terminant généralement avec une robe de mariée, il fera défiler deux mariés, deux femmes. L'année précédente, il avait évoqué une autre problématique actuelle, la transition écologique. Sous les pales d'un parc d'éoliennes, les mannequins arpentent un podium recouvert de panneaux solaires. Amateur de boissons gazeuses et une fois tous les jamais d'un bon verre de très grand cru, car il n'a jamais été porté ni sur les psychotropes ni sur les excès, il aime prendre son temps.
Être assis à une terrasse de bistrot parisien, regarder les filles passer en lisant un bon bouquin, c'est formidable.
Il adore le grandiose, le monumental, le théâtral. En 2017, au Grand Palais toujours, il installe une fusée de 30 mètres de haut. Karl Lagerfeld, styliste génial, dessinateur hors pair, habile photographe, est devenu, en plus de 60 décennies de mode, le couturier le plus connu et reconnu du monde.
končuje se slušno preverjanje francoščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!